Bonjour. Je voudrais d'abord savoir combien il manque de feuilles, parce que j'en ai fait le nombre que vous étiez la fois passée, mais il en manque. Qui est-ce qui n'a pas eu de feuilles ce matin? Ah, c'est un minimum. D'accord, ça va. J'en aurai la fois prochaine. Donc j'essaierai de vous donner chaque fois, normalement après le cours, donc à la fois suivante, sauf à la fin, j'essaierai de vous donner un petit résumé de ce que j'ai dit. Comme il y a des choses qui sont déjà écrites, je ne les répète pas, vous pouvez lire. Beaucoup de choses sont écrites dans ce livre, mais c'est un peu beaucoup. L'avantage de ce livre, c'est qu'elle vous donne une traduction, enfin, ce n'est pas une traduction, mais c'est une transposition, disons comme cela, littérale du texte hébraïque. J'ai refait toute la traduction d'une manière minutieuse, avec des points d'interrogation parfois, avec des expressions qui ne sont pas tout à fait françaises, mais c'est pour que vous voyez ce qu'il y a un peu dans le texte hébraïque. Moins une chose, c'est la musicalité du texte et ce que disent les mots. Les mots hébreux disent tout un champ de sensations, de perceptions, d'histoires, qu'il est impossible de traduire chaque fois. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les Bibles, vous avez des notes qui invitent à approfondir le texte. Nous avons parlé la fois passée de la sagesse. Nous avons vu que la sagesse est un phénomène universel, que c'est un phénomène de transmission pour dire une appartenance. Je compose des choses pour mes enfants ou mes petits-enfants pour leur dire quel est l'esprit d'une famille. Et c'est un peu cela que fait Israël. L'expérience des ancêtres qui est redevenue expérience réelle et actuelle est transmise à des générations qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs que l'on a écrit l'écriture, naît précisément l'écriture de l'histoire, naît précisément de ce dialogue qu'on veut nouer avec ceux qui sont nos descendants et que nous ne connaissons pas. Donc c'est un sens profond de la vie qui nous permet d'écrire de cette manière. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël écrit. Il écrit justement pour les générations futures, pour que ce sentiment profond d'appartenir à une réalité qui noue les gens entre eux et qui s'exprime par la présence du Dieu qui donne la vie, il faut que cela puisse se transmettre. Transmission d'une mémoire. Une mémoire, ce n'est pas seulement une histoire. Une histoire raconte les choses. Mais la mémoire les raconte d'une certaine manière, à partir de quelqu'un qui a vécu ces choses. Et, excusez-moi de me répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu, il y a trois manières de faire l'histoire. Il y a la moderne, qui est la plus restreinte, qui est passée par le rationalisme. C'est l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Et nous, modernes, nous ajoutons un adverbe. Ce qui s'est exactement passé. parce que nous sommes passés par le scientisme et que nous voulons savoir ce que c'est l'exactitude des faits. Et nous pensons que l'examen des faits, l'observation des faits, dit la réalité profonde. Alors que pour un juif ou pour un grec, c'est pas la réalité profonde. Ça dit simplement le phénomène extérieur, l'apparence. Ça, c'est une première chose. Hein, c'est que nous disons cela comme de cette manière et nous utilisons le terme de Geschichte, ce qui se passe, Geschiedenis, hein, ce qui s'est passé. Nous restons sur le plan du paraître. Pour le grec, historio, il raconte l'histoire, le mot histoire, justement, vient du grec, historio, et ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que l'on raconte. Yves Duteil reprend cela dans un de ses chants. Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire comme on le raconte pour se faire valoir. Donc c'est ce qu'on raconte. Et donc là, s'il y avait une certaine objectivité qui était proposée, ici l'objectivité passe par l'expérience d'un témoin ou d'un témoin de témoin, c'est-à-dire il y a une subjectivité qui se mêle à l'objectivité. Et c'est un plus, ce n'est pas un moins. Parce que la manière dont une réalité qui se passe m'impressionne et la manière dont je la raconte sont aussi historiques. Historiques au sens ce qui s'est passé, ça se passe aussi. Donc histoire, ça, c'est la conception moderne. La première, la deuxième, c'est la conception grecque. L'histoire, c'est ce qu'on raconte des événements, des expériences. Mais le juif voit les choses encore autrement. C'est l'histoire, c'est ce qui se vit. C'est-à-dire un engendrement. L'histoire, c'est une mémoire qui fait vivre. Pas seulement mémoire qui vit, ça c'est déjà pas mal, mémoire qui se vit actuellement, mais une mémoire qui fait vivre, une mémoire qui donne de vivre l'actualité et le futur. Donc, manière d'écrire l'histoire et manière de se la représenter. Le plus de l'hébreu, c'est qu'il engendre des vies. Raconter, c'est faire vivre. C'est pas seulement des faits qui se sont passés, ça c'est l'observable. C'est pas seulement ce que je raconte, ça c'est le témoignage. Mais c'est encore ce qui nous fait vivre ensemble, c'est-à-dire ce que nous avons vécu, non pas seulement les paramètres de ce que nous avons vécu, mais la réalité profonde que nous avons vécue, que nous vivons et que nous pouvons transmettre. Donc la sagesse, c'est un peu cela. Et cette sagesse, je vous disais, est universelle. Mais elle se particularise, parce que finalement la sagesse est une appartenance. Une appartenance à une famille, à un clan, à un peuple, à tout homme. Mais d'une manière particulière. C'est chaque fois une personne, une famille, un clan, un peuple qui le vit, ensemble. Et donc, il y a dans cette réalité de sagesse une volonté d'enseignement, une volonté de rassembler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un livre de sagesse qui s'appelle Kohelet, c'est-à-dire la rassembleuse, la réalité qui nous rassemble. Et donc c'est important de percevoir aussi cette solidarité particulière et en même temps universelle du phénomène de la sagesse. Il y a un petit livre que je vous ai noté, parce qu'il a paru récemment, je l'ai ajouté à ce que j'avais écrit précédemment, c'est le dernier de la série des feuilles que je vous ai transmises tout à l'heure. Ce petit livre de Stéphanie Antonios, qui enseigne à Paris, elle a fait une étude importante sur les origines de cette sagesse et la manière dont ils ont influencé l'écriture, de l'Orient ancien à la Bible. La Bible n'a rien inventé. Elle n'invente que la réalité, c'est-à-dire ce que les hommes vivent. La Bible est une grande anthropologie, une manière de vivre l'homme et la femme, bien entendu. Et justement, elle essaie de montrer d'où viennent les différents thèmes utilisés par la sagesse de l'écriture. Sagesse égyptienne, sagesse qui va donner les proverbes, que vous trouvez souvent aussi dans les proverbes africains. C'est une véritable sagesse de vie, une sagesse de vie qui mène à une initiation concrète. Et puis, dans son chapitre troisième, après avoir parlé donc de la sagesse égyptienne et des proverbes, elle parle de la sagesse égyptienne, de la sagesse mésopotamienne, pardon. Et donc, comment les Babyloniens transmettaient-ils leur sagesse? À partir d'une perception et donc d'une idée de création. Ce monde n'est pas né tout seul. Il y a dans ce monde et dans lequel nous vivons, qui est notre milieu de vie, il y a vraisemblablement une intention. Ça ne s'est pas produit au hasard. Et on a bien l'impression qu'il y a des lois dans cette nature. Il y a une logique profonde, et dans la nature extérieure, et dans les phénomènes cosmiques, et dans cette nature intérieure qu'est l'homme qui naît, l'homme qui croit, l'homme qui meurt. Donc il y a déjà toute une sagesse créationnelle, pourrions-nous dire, chez les Mésopotamiens, une première source de sagesse, mais naît, comme elle le dit, naissance d'un genre nouveau, à la page 60, le juste souffrant. Ah, si le monde a été créé par un dieu, par une divinité, quelle qu'elle soit, ou par un concert de dieux, peu importe, donc s'il y a une idée au départ, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Donc, une réalité que tout le monde, tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier, expérimentent la souffrance. Qu'est-ce que ça signifie, la souffrance? Est-ce qu'elle a une place dans cette intention créatrice d'un dieu, de Dieu? Et elle le dit bien, au tournant du deuxième millénaire, une nouvelle tradition sapientiale se fait jour, celle de la théodicée, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu, le Créateur, peut avoir de commun avec la souffrance humaine? Quel est le rapport, la relation entre Dieu et l'homme? Hein, cette puissance créatrice, en même temps, et cette limite que l'homme ressent et qui fait mal. La figure du juste souffrant, qui semble remettre en question la sagesse mésopotamienne. S'il y a un créateur, pourquoi le mal? Bon, en tout cas, il s'interroge sur le mal et la souffrance. Et alors, elle nous cite un certain nombre de textes mésopotamiens, hein, qui parlent justement d'un homme qui a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il devait, et qui souffre quand même. La souffrance n'est pas seulement pour ceux qui ont mal agi, mais la souffrance est aussi pour ceux qui agissent bien. Donc quel est le rapport entre la divinité et l'humanité? Dialogue entre un homme et son Dieu, et on a retrouvé par exemple à Nippur, cinq tablettes d'époque ancienne, d'ancien babylonien, 1700 avant Jésus-Christ, deuxième millénaire donc. Et là on trouve déjà ce thème de l'homme qui s'adresse à son Dieu et lui demande raison. Il demande le compte de cette souffrance. Et il y a plusieurs livres de cette manière qui apparaissent dans l'histoire de la littérature mésopotamienne, de ce qu'on en a retrouvé, bien sûr. Il y a probablement beaucoup d'autres choses. Il y a cela, et puis il y a les statuettes aussi qui montrent des souffrants. Et ces souffrants qui crient. Et vous voyez des mains dressées dans une sorte de revendication, en tout cas de cri. Et alors, ce thème a été repris dans la sagesse hébraïque, disons comme ça, sémitique en tout cas, a été repris et nous a donné ce grand poème de Job. Nous arrivons donc à ce poème. D'où vient-il? Je vous dis, il y a certainement une thématique qui est ancienne et qui a été empruntée à la sagesse mésopotamienne. Donc il y a, voyez, un certain nombre d'influences mutuelles qui se sont faites au cours du deuxième millénaire, vraisemblablement, au moment aussi où on essayait de transmettre en Israël cette idée d'alliance entre Dieu et l'homme. Il y a toujours la problématique des rapports, du dialogue entre Dieu et les hommes, en termes de contrat. Contrat entre Seigneur et ses vassaux. Mais alors, pourquoi le mal? Si Dieu a créé le monde, s'il y a une fatalité, d'autant plus que dans la Bible, le Dieu est unique, il n'y a pas un concert de Dieu et donc une concertation possible, alors d'où vient le mal? Vient-il de l'homme? Vient-il d'ailleurs? Vient-il de Dieu? Et ça, c'est le problème exact de Job. Le rapport de Dieu avec le mal de l'homme. Et en termes de dialogue, en termes de plainte, de lamentation, de revendication, de cri, tout cela vous le trouvez dans les psaumes aussi, vous le retrouvez dans les prophètes, surtout que les prophètes, depuis Osée, au 8e siècle, ont commencé à transmettre l'alliance non plus comme un pacte, comme un traité d'alliance, mais comme un rapport mutuel d'homme à femme. Et c'est ce que nous trouvons, par exemple, dans le Cantique des Cantiques. Dans la Bible, ailleurs que dans le livre de Job, on parle aussi de ce personnage ou de cette légende ou de cette expérience de injuste souffrant. L'idée de juste, ça veut dire quelqu'un qui vit selon les règles d'une tribu, d'un peuple. Et ce personnage va recevoir un nom, et ce nom que nous traduisons par Job, que vous retrouvez dans la tradition arabe et musulmane par Ayoub, et dans la Bible, c'est
difficile à écrire. Iyov. Le bête se prononce V. Iyov. Iyov, en hébreu, Iyov, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un? C'est une personne déterminée? C'est une allégorie? C'est tout souffrant? C'est possible. En tout cas, les rabbins qui aiment bien jouer sur les mots disent Iyov, c'est par métathèse, Oyev. Ce sont exactement les mêmes lettres, mais avec la métathèse, c'est-à-dire le déplacement de deux lettres. Au lieu de Iyov, vous avez Oyev. La vocalisation a peu d'importance. Oyev, c'est l'ennemi. Ah ! Est-ce que ce serait l'ennemi de soi-même ? Est-ce que ce serait un ennemi extérieur ? Est-ce que Dieu serait l'ennemi ? Toutes sortes de questions hein, qui vont surgir. Et tout cela, il faut le débattre. Il faut essayer de l'expliquer. Il faut essayer de comprendre, en tout cas, d'où vient le mal. D'où vient le mal ? Si la création, d'autant plus que c'est écrit dans le premier livre de la Genèse, bien qu'il soit à peu près contemporain du texte de Job, hein, ces premiers chapitres de la Genèse, Dieu vit que c'était bon. Il est en fait le seul qui puisse savoir ce qu'est le bon, puisqu'il crée. Et que créer, c'est faire le bien. Le bien qui est bon, et donc qui est beau. Hein. Voilà. Eh bien, dans la Bible, nous avons un texte intéressant, c'est au chapitre 14e du livre d'Ézéchiel, donc qui est d'après l'exil, disons 5e siècle. Difficile à dater de façon exacte. Et ce n'est pas la datation qui est importante, ce qui est important c'est qu'est-ce qu'il dit et pourquoi dit-il cela ? Je vous lis à partir du verset 17, voilà, un petit passage intéressant. Passage intéressant dans le droit des peuples, c'est comment naît la responsabilité personnelle. Est-ce que l'homme a une responsabilité personnelle ou bien est-ce qu'il y a une responsabilité collective? Les choses se passent donc entre les peuples. Mais est-ce que l'homme a quelque chose à faire dans l'histoire? La personnalité, est-ce qu'elle a une histoire et est-ce qu'il peut marquer l'histoire? Eh bien, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, c'est toujours ainsi que Ézéchiel se sent appelé fils d'homme. C'est-à-dire personnalité, fils d'homme. Si un pays péchait contre moi, c'est Dieu qui parle, hein, en m'étant infidèle et que j'étende la main contre lui. Ben, vous voyez, donc Dieu a quelque chose à voir. Le mal pourrait être une punition de Dieu. Ah, bon. Et que j'étende la main contre lui, détruisant sa réserve de pain et lui envoyant la famine pour en retrancher bêtes et gens, donc tout ça, c'est le Créateur, hein, et qu'il ait dans ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Daniel, c'est vraisemblablement Daniel, hein, Dieu juge. Noé, noir, le repos. Daniel, hein, mon Dieu, c'est mon juge, c'est Dieu. Et Job. Iov. Ces hommes sauveraient leur vie grâce à leur justice. Ah, donc, il y a le problème de la justice et de la punition. Donc, du mal. Oracle du Seigneur. Si je lâchais
les bêtes féroces dans ce pays pour le priver de ses enfants et en faire une solitude que nul ne peut franchir à cause des bêtes, on retomberait dans l'animalité, et qu'il y ait ces trois hommes dans ce pays. Par ma vie, oracle du Seigneur, ils ne pourraient sauver ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait une solitude. Donc l'homme pourrait faire quelque chose par sa responsabilité, la manière dont il vivrait. Si je faisais venir l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée passe dans ce pays, j'en frapperais bêtes et gens, mais c'est toujours Dieu qui est l'auteur, hein, et que ces trois hommes soient dans ce pays, par ma vie, oracle du Seigneur, ils ne pourraient sauver ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Responsabilité personnelle. J'ai ma vie entre mes mains. Si j'envoyais la peste dans ce pays et que je déverse dans le sang ma colère contre eux en retranchant bêtes et gens, et que Noé, Daniel et Job soient dans ce pays, par ma vie, oracle du Seigneur, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur vie grâce à leur justice. Voilà un texte intéressant, parce qu'il s'agit de responsabilité personnelle, et il s'agit de sauver les autres, et les fils et les filles. Donc nous avons une responsabilité aussi par rapport à nos descendants, par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, les générations qui viennent. Il s'agit donc de sauver sa vie. Par ma vie, dit le Seigneur. Par la vie, ma vie, ça veut dire Chai Adonai, il est vivant le Seigneur, il sait ce que c'est que la vie, il en a l'expérience puisqu'il la donne. Tout ça est inclus dans ce texte. Ainsi parle le Seigneur, bien que j'envoie mes quatre fléaux terribles, intéressant, nous allons les revoir précisément dans le livre de Job, épée, famine, bête féroce et peste. Et vous voyez qu'il y a des malveillances, épée, hein, il y a des cataclysmes naturels, famine, peste, vers Jérusalem pour en retrancher bêtes et gens. Voici qu'il s'y trouve un reste de survivants. Jamais la destruction n'est totale. Il y a toujours un reste. Qu'est-ce que ce reste peut signifier? Un reste que l'on a fait sortir fils et filles. Oui, fils et filles, le terme sont intéressants. Les voici qui sortent vers vous, pour que vous voyiez leur conduite et leurs œuvres, et que vous vous consoliez du mal que j'aurais fait venir contre Jérusalem, de tout ce que j'aurais fait venir contre elle. Pardon. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs œuvres, et vous saurez que ce n'est pas en vain que j'ai fait tout ce que j'ai fait en elle. Oracle du Seigneur. Donc le Seigneur a quelque chose à voir avec la manière de vivre des hommes, juste ou injuste. Mais c'est le Seigneur qui est regardé là comme celui qui rend la justice, c'est-à-dire qui punit ou qui sauve. Bon. Voilà des éléments qui sont donnés. Et nous avons même dans le Nouveau Testament, nous avons même aussi une petite allusion à ce Job. Voilà. C'est dans la lettre de Saint Jacques. Il parle d'autre chose, lui. Il parle de l'avènement du Seigneur au jour de la reddition des comptes, du jugement, ce que nous appelons le jugement. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Jugement après la vie, jugement universel, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Voici ce que nous dit Saint Jacques dans ses conseils. Dans ses conseils, vous savez que Saint Jacques est un homme pratique, hein, qui fait attention à la pratique précisément. Et voici ce qu'il nous dit de l'avènement du Seigneur, dont nous parle aussi le livre de Daniel, qui voit comme un fils d'homme venant sur les nuées pour juger les nations du monde. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez, le laboureur, il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. Il observe et il sait quand il faut faire les semailles et quand il faut faire la moisson. Soyez patients, vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Cette proximité est-elle dans le temps ou est-elle dans la réalité profonde? Il est toujours proche, le Seigneur. Ce n'est pas nécessairement une imminence temporelle, c'est une urgence intérieure. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, afin de n'être pas juges. Voyez, le juge se tient aux portes. Prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience. Tiens, il met les deux choses ensemble. Souffrance, patience. Patience vient aussi du terme pâtir, c'est-à-dire souffrir. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Ah, constance, persévérance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Comment mettre tout cela ensemble? Eh bien voilà, c'est le thème du livre de Job. Comment mettre ensemble la bonté du Seigneur et sa justice? Jusqu'où va-t-elle? Est-ce que le Seigneur agit de l'extérieur, dans l'extériorité des choses, dans ce que nous appelons l'histoire ou la nature? Ben oui, il semble. Et pourtant, est-ce que son action n'est pas précisément tout à fait intérieure, de l'ordre de la responsabilité à prendre, de l'ordre de la patience à vivre? Qu'est-ce que c'est que la patience? Et donc, quel rôle pourrait avoir la souffrance dans la réalité humaine? Voilà donc où nous en sommes. Donc, on voit bien le problème profond, c'est celui de Dieu et de ses relations profondes avec l'homme, particulièrement quand il souffre. Et il y a un sens que l'homme a, comme inné, en tout cas qu'il place en Dieu, c'est le sens de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Rendre à chacun ce qui lui est dû. Qu'est-ce que c'est que devoir? Rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire correspondre au profond de chacun. Ce qui lui est dû, au fond, c'est la destinée de la personne. Ce qui m'est dû, c'est d'être moi. Mais qui est-ce que c'est, moi? Est-ce que c'est l'idée que j'ai de moi? Est-ce que c'est l'image ou le rêve que je fais sur ma propre existence? Ah non. Moi, c'est une existence qui m'est donnée, que j'ai absolument reçue. Reçu avec la naissance de mon être, reçu de mes parents aussi, à travers toute une hérédité, toute une histoire, reçu aussi à travers tous ceux et toutes celles qui m'ont permis de vivre, qui continuent d'alimenter mon existence, c'est-à-dire un peu tous les hommes, ce qui m'est dû. J'ai droit à quoi? J'ai droit à la nourriture, j'ai droit au repos, au travail, j'ai droit à ce que nous appelons le bonheur, j'ai droit à être moi, dépendant, pas moi n'importe comment, pas d'une liberté absolue, moi, dans une petite liberté, insérée à une époque, dans un temps et dans un espace déterminé. Donc extrêmement dépendant. Et pourtant, avec une responsabilité personnelle et une marque propre que j'ai à transmettre à mes fils et mes filles. Donc être moi. Et je parle de salut. C'est quoi le salut ? Encore une racine hébraïque, Yasha, hein, Yeshua, Jésus, hein, est de cette racine-là, Yehoshua, Isaïe, Yeshua, Jésus, donc je l'ai dit, Yoshua ou Yehoshua, Josué, vous voyez, c'est un nom qui est multiple, qui est repris plusieurs fois dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu sauve. Mais sauver, c'est quoi ? Nous prenons le mot sauver dans un sens, au fond, exigu, parfois mesquin. Sauver d'un danger, arracher un danger. Et la Bible l'utilise aussi, mais elle utilise une autre racine pour dire cela. Yasha, c'est vraiment me donner d'être moi. Moi en rapport avec Dieu qui me crée, moi en rapport avec moi-même, moi en rapport avec les autres et le monde. Donc, d'une liberté véritable, mais déterminée, mais limitée. Je dois tenir compte, mais tenir compte, ça veut dire quoi ? Je dois tenir compte de la liberté de mes frères et de mes sœurs, de la limite de la création, et je dois le faire en dépendance de celui qui me donne la vie. Sauver, être sauvé, c'est recevoir la vie que je peux, moi, recevoir dans ma plénitude. C'est très petit. Le droit, c'est d'être vraiment homme, femme, mais un humain au sens plein du terme. Un humain, c'est quelqu'un qui a un esprit, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Esprit dit toujours présence divine dans la vie, dans la réalité de la vie qui est donnée comme un dynamisme. D'être vraiment proche de mon être, de mon existence, pas de mes idées, de ma réalité profonde, de mon corps, de mes gestes, de mon action, dans mon milieu, c'est-à-dire en union avec mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire, j'ai un esprit, j'ai une âme, j'ai un corps. Mais pas seulement esprit et matière, c'est dimension verticale d'abord, esprit, âme, c'est-à-dire mon moi, hein, magnificat anima mea dominum, mon âme, hein, et magnifie le Seigneur. Oui, mais mon âme, c'est moi-même. Allons, mon petit vieux, allez. Glorifie le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Vas-y, donne-toi tout entier à cette tâche. C'est bien ça que ça veut dire, finalement. Et le corps, c'est la relation. Relation aux autres, relation à la nature. Et donc je dois en tenir compte. Voilà donc l'ambiance, le climat, disons, intellectuel, volontaire, climat surtout, de dépendance, reçue et accueillie, telle que le voit le juif. Alors, mon action, comment se situe-t-elle dans ce paysage ? mon action. Moi, comment est-ce que je me sauve ou bien je reçois mon salut? Déjà cela, pas facile. Est-ce que je puis me sauver? Ça veut dire quoi? Ou bien est-ce que je peux recevoir vraiment d'être sauvé? Que signifie le salut? Si ce n'est pas seulement l'arrachement à un péril, mais la restauration, la restitution de mon être au plus intime de ma vie. En dépendance, bien sûr, puisque je suis un être parmi de multiples êtres humains. Eh bien, c'est tout le drame de Job. C'est la discussion entre un souffrant parmi d'autres, un souffrant, mais qui mène sa souffrance jusqu'au paroxysme, qui est mené par la souffrance jusqu'au plus intime de son être. Est-ce que je peux mériter la souffrance? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. On résume souvent l'histoire de Job à cette phrase-là. Si nous attendons du Seigneur le bien, pourquoi pas aussi le mal? Si tout m'est donné par Dieu. Autrement dit, mais ce qui m'est donné en positif est toujours limité puisque je suis homme. Je ne suis pas Dieu. Je suis homme. Je suis homme qui désirerait être Dieu et qui parfois se prend pour Dieu et qui parfois fait de sa prière un distributeur automatique. Je prie, donc je reçois. Oui, je sais bien que c'est dans la Bible et dans l'Évangile. Mais qui cherche, trouve. Mais on ne dit pas qu'on trouve exactement ce qu'on a cherché ou ce qu'on pense avoir cherché. Qui cherche, trouve. Qui demande, reçoit. Mais on ne dit pas qu'il reçoit ce qu'il a exactement demandé. Il reçoit quoi? Il reçoit d'être lui-même dans le désir. Et comme ce désir est toujours limité, il souffre. Alors voilà comment Job est né. Et Job continue de vivre. Il est né dans la Bible, il est né par la réflexion de personnes qui ont souffert, et qui ont souffert un paroxysme, et qui ont souffert un paroxysme. Vous savez ce que c'est qu'un paroxysme? C'est aller jusqu'au bout des possibilités humaines. Et quand on va jusqu'au bout de cette possibilité, quand on sent que la mort vient, qu'elle est là, qu'elle vous désagrège, et qu'on reçoit de vivre, ah, l'expérience fait que tout change. Je reçois ma vie comme une gratuité. Et plus du tout comme un dû. Je suis en sursis, disons-nous. J'aurais dû mourir là, à tel moment, et je vis par pure grâce. Faire l'expérience de cette gratuité. Je suis moi-même une gratuité. J'ai rien fait pour naître. Mais quelque chose m'a fait naître. Quelqu'un m'a fait naître. Quelqu'un m'a donné la vie et la croissance. Alors il faut discuter. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais il y a une théologie juive, mais une théologie juive qui réfléchit précisément après l'exil. Et le livre de Job tel que nous l'avons aujourd'hui, il est vraisemblablement né à ce moment-là. Il y a eu des passages additionnels, on les a ajoutés d'une manière ou d'une autre, nous le verrons. Et c'est pas pour rien qu'on les a ajoutés à tel ou tel endroit, bien sûr. On peut expliquer ça, en tout cas hypothétiquement. Mais on a fait l'expérience de quoi ? L'exil, c'est quoi ? Eh bien, on avait cru que le Seigneur nous donnait tout. Il nous faisait peuple, il nous donnait un roi, il nous avait donné une terre. Il l'avait promise, il l'a donnée. Ça, ce sont les dons de Dieu. Eh bien, tout ça, il nous l'a repris. Il. Qui voulez-vous que ça soit ? Oh ben non, ce sont les Babyloniens, ce sont les Égyptiens. Ah non, si Dieu est le Créateur, il est aussi celui qui est maître de l'histoire. Et être maître de l'histoire, ce n'est pas tirer des ficelles ou des marionnettes. Être maître de l'histoire, c'est être présent de manière cachée dans cette histoire. Car s'il est de manière trop violente, trop extérieure, il va briser la liberté des hommes. Faut pas qu'il soit trop puissant. Il faut que sa puissance soit douce, que sa réalité soit compatissante, miséricordieuse, nous dirions compréhensive. Alors, Job, c'est ce souffrant qui fait l'expérience paroxystique, donc qui va jusqu'au plus loin de la souffrance humaine. Il n'a plus rien. Tout ses biens, parti. Ses enfants, sa richesse, parti. Son corps, plein de souffrance. Lépreux, on ne sait pas de quelle maladie il souffre. Sida, on ne sait pas. Peu importe, on voit bien que dans le paroxysme, toutes les réalités du monde sont présentes. Le paroxysme, c'est l'universalité en profondeur, mais limitée à une singularité. Une singularité qui souffre, mais d'une manière tellement intense qu'elle assume, que chaque singularité assume en solidarité toutes les souffrances humaines. Un cri absolu, une solitude totale. Voilà, un homme qui souffre. Et face à cet homme qui souffre, vous avez des gens qui réfléchissent, de bons théologiens, qui sont ses amis, et qui viennent le trouver. Et on discute. On discute. Et donc c'est une discussion. Mais cette discussion est une discussion de type poétique. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose d'un peu artificiel, extérieur. Mais ne nous y trompons pas. À travers les images qui sont utilisées par la poésie, à travers la manière dont les choses sont racontées, il y a chaque fois une réalité profonde qu'il faut faire surgir. Tant que cette réalité profonde n'a pas surgi, nous restons quand même à l'extérieur. Nous restons à l'aspect poétique, nous restons aux images et nous ne nous laissons pas interpeller au plus intime. Et cette discussion théologique a quoi comme objet ? Mais précisément la rétribution. Et la rétribution temporelle. J'ai bien agi, donc j'ai droit à la vie éternelle. J'ai droit à. Hein. C'est quoi avoir droit à ? Et justement, rétribution veut dire, si tu souffres en cette vie, c'est que tu as péché en cette vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu souffres parce que tu as péché? Donc ce serait une punition. Mais si tu n'as pas péché et que tu souffres, Alors, c'est que Dieu est arbitraire, non? Il fait ce qu'il veut quand même s'il est Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut? Ou bien est-ce qu'il y a une justice en Dieu? Et quel visage prend sa justice? C'est ce que nous appelons, de façon abstraite, la rétribution temporelle. Méritons-nous quelque chose? Déméritons-nous aussi? C'est tout le sens de notre existence, tout notre destin. Ce personnage n'est pas spécifiquement juif. Il vient d'ailleurs. Pour nous dire que ce n'est pas seulement le juif qui perçoit cela, comme par exemple Isaïe le percevra, dans ce personnage aussi du serviteur souffrant, qui est à la fois un prophète, le peuple d'Israël, et même Cyrus. Étrange, hein? Même Cyrus. Mais c'est de la même veine. C'est-à-dire qu'il y a une universalité, les autres aussi, tous les hommes, pas seulement les juifs qui croient en Dieu, mais tous les hommes sont aux prises avec cette problématique profonde. Est-ce une problématique? Est-ce que le mal est un problème? Ou est-ce que c'est une réalité compréhensible ou incompréhensible? Pourquoi l'homme souffre-t-il? Parce qu'il est mortel, parce qu'il est limité dans le temps et dans l'espace, parce qu'il est gratuité absolue. Et alors, ça nous est raconté dans le livre de Job comme une histoire, l'histoire d'un homme qui a tout perdu. Le juif, il vit évidemment sa propre histoire. Il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Donc c'est que Dieu l'a repris, puisque c'est lui qui l'avait donné. Cela vaut pour un homme, cela vaut pour tout homme. Mais attention, nous n'avons pas seulement le droit, mais le devoir de demander des comptes à Dieu. Parce que s'il nous a fait ainsi, tels que nous sommes, capables de souffrir, c'est que d'une manière ou d'une autre, il doit nous donner les moyens. S'il a mis au monde, il doit continuer à tenir dans la vie. C'est ce que nous appelons la providence. Mais si je crée quelque chose, je suis lié à ma créature. J'ai un devoir de le faire vivre. Si j'ai mis des enfants au monde, c'est pour les faire exister pleinement eux-mêmes. Et je ne peux faire cela que dans l'effacement de ma propre personne. Donc si Dieu aime, il doit s'effacer. Sa liberté est de s'effacer. Sa justice aussi. Donc voilà, en quelques mots, l'enjeu de ce livre. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est une histoire. Et cette histoire, probablement une vieille légende, hein, à partir de un juste souffrant, peut-être venant de Mésopotamie, hein, un conte ou un poème venant de Mésopotamie, et qui va être orchestré. Alors, on vous raconte l'histoire, le début, le prologue, et la fin, l'épilogue, et entre les deux, discussion théologique. Je dis théologique, c'est pas seulement philosophique, aussi, mais théologique parce que Dieu est toujours, tout le temps, mis en question. Que fait Dieu dans tout cela? Alors, on commence cette histoire de façon très simple, on vous dit une histoire qui reprend un peu les thèmes des patriarches, l'image des patriarches, les grands cheikhs. Il y avait jadis, au pays de Outz, quelque part, un homme appelé Job, Iov, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se gardait du mal. On vous dit tout de suite hein, ce qui en est. Et on vous le raconte, on ne sait pas qui, c'est le narrateur omniscient, bien sûr, hein, qui nous raconte cela. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait aussi 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Un cheikh riche, puissant. Voilà. Un homme qui avait tout ce qu'il fallait sur le plan humain. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux, à tour de rôle, et d'envoyer chercher leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Voilà. La situation vous est décrite en quelques mots. Job est devenu le personnage, dans la tradition juive comme dans la tradition chrétienne, le personnage de tout homme qui souffre. Mais ce n'est écrit et discuté qu'à partir de l'exil. Le destin d'Israël est lié d'une manière particulière à ce personnage de Job, et pourtant il est décrit comme un homme qui n'est pas un Israélite. Et ça veut dire aussi quelque chose. C'est que d'une manière ou d'une autre, Israël, dans sa souffrance même, dans sa Shoah, est exemplaire d'une réalité humaine. On dirait que toute l'histoire d'Israël est une histoire de persécution, de mépris, de haine. Comment ce peuple réfléchit-il lui-même son destin à partir du livre de Job? Et il est peut-être bon aujourd'hui que nous nous trouvions dans une église qui est vilipendée, persécutée, humiliée, parce que nous sommes alors un peu plus proches de cette réalité humaine qui existe partout et qui s'appelle la souffrance, le mépris, le rejet. Nous commencerons donc la lecture du prologue la fois prochaine.